Geneviève Solomon, est-ce qu'on dit Solomon ou Solomon, Geneviève?
Solomon.
Solomon, mais parfait. Vous êtes coordonnatrice de l'Association des patients immunodéficients du Québec. Peut-être pour mettre les gens complexes en contexte, vous dire que l'APIQ travaille avec un comité scientifique, avec d'autres regroupements de patients à travers le monde pour sensibiliser la population à l'immunodéficience, promouvoir le diagnostic précoce et défendre les intérêts des personnes touchées. Et bien évidemment que ça s'imposait de parler à Geneviève éventuellement dans cette situation que l'on vit. Quels sont, je sais que c'est pas la première fois, il y a d'autres, contrairement à d'autres sujets que l'on aborde, que personne n'aborde, celui-là a déjà été abordé, mais quand même, pourquoi pas le faire nous aussi. Quelles sont les conditions qui peuvent créer une immunodéficience, Geneviève?
Écoutez, il y a plusieurs formes d'immunodéficience. Il y a d'abord deux grandes familles. Il y a l'immunodéficience primaire qui est à la naissance. Okay. Donc, les gens naissent avec l'immunodéficience. Des fois, elle va se manifester à la naissance. Elle peut se manifester aussi plus tard dans la vie. Et il y a aussi l'immunodéficience secondaire qui est due à une autre pathologie. Donc, quelqu'un qui aurait eu, par exemple, un cancer, une leucémie, va développer une immunodéficience secondaire suite au traitement. Parfois, elle va être de courte durée. Parfois, elle va être chronique. Donc, c'est ça. Il y a deux formes d'immunodéficience, la primaire et la secondaire. Bon, nous, c'est sûr qu'on est plus actifs au niveau de l'immunodéficience primaire, okay. ou lorsque l'immunodéficience secondaire devient chronique, mais c'est là qu'on entre on rentre en ligne de compte avec le patient, où est-ce que là, on est là pour le soutenir. C'est sûr que c'est des patients qui sont extrêmement vulnérables présentement. Écoutez,
tant les primaires que les secondaires?
Tant les primaires que okay. les secondaires. Okay. Les deux ont la même condition. C'est sûr qu'il y a des traitements, il y a deux formes de traitements pour l'immunodéficience présentement. Il y a des traitements en sous-cutané qui se font à la maison ou des traitements en intraveineux qui se font à l'hôpital. Mais c'est clair que ces personnes-là sont des gens qui n'ont pas de système, leur système immunitaire est défaillant. Donc, soit qu'ils ne les anticorps ne fonctionnent pas bien ou soit qu'il n'y en a pas assez. Donc, on a des thérapies de remplacement d'immunoglobuline. Donc, on injecte dans le patient, que ce soit par voie sous-cutanée ou intraveineuse, un remplacement d'immunoglobuline. Donc,
et ça peut se faire à la maison?
Oui, ça peut se faire okay. à la maison.
Un peu comme l'autre qui s'injecte, mon Dieu, là, pour les diabètes, l'insuline ou une injection.
C'est quelque chose comme ça.
Okay, une injection de globule, toi.
Okay. Oui, c'est ça, exactement. Ça se fait une fois par semaine à la maison, des fois une fois par deux semaines, là, dépendant des cas. Par contre, présentement, les enjeux, c'est sûr que ça remplace une partie des immunoglobulines, mais le patient immunodéficient reste quand même plus à risque d'attraper des maladies infectieuses comme la COVID-19, bien malheureusement. Ouais. Et souvent, les gens qui ont un déficit immunitaire ont des fonctions respiratoires, des fonctions pulmonaires qui peuvent être un peu plus réduites, étant donné les nombreuses pneumonies. Souvent, avant d'avoir un diagnostic, on peut passer plusieurs années avant en ce qu'on appelle chez nous en errance diagnostique, à chercher qu'est-ce qu'on
qu'est-ce
a
qui
à
se passe,
faire
ouais.
investiguer.
Ouais. Donc, est-ce que, par les temps qui courent, on doit être aussi prudent que les personnes âgées de plus de 70 ans ou même davantage?
Je vous dirais que c'est la même chose.
Okay. Les mêmes mesures s'appliquent.
Les mêmes mesures s'appliquent. Par contre, il y a une mesure aussi. Oui, les mêmes mesures s'appliquent. On reste à la maison. C'est pas compliqué. On reste à la maison. On s'isole. C'est sûr qu'il y a des exceptions. OK? Les exceptions confirment la règle, bien évidemment. Mm-hmm. Mais on conseille à tous nos patients de rester en isolement, de ne pas aller dans les lieux publics, rencontrer de gens. Là, on a une grosse problématique, nous, parce que les patients, pour recevoir la fameuse immunoglobuline que je vous parle depuis tout à l'heure, quand c'est en sous-cutané, il faut qu'ils aillent chercher leur produit à l'hôpital. Ah. Donc, présentement, nous, on est très, très inquiets. On tente de faire des démarches avec Héma-Québec, avec le ministère, pour pouvoir faciliter, pour pouvoir faire livrer les produits.
Ben, c'est ça, c'est niaiseux, là, mais je pensais à Uber. À défaut de Uber Eat, Uber Heal, quelque chose comme ça.
Oui, mais écoutez, c'est que c'est un peu particulier parce que comme ce sont des produits sanguins, ce sont des produits sanguins stables, mais quand même, il reste que, bon, il y a des règlements, il y a des façons de faire qui doivent être respectées pour garantir l'innocuité du produit. C'est sûr que, bon, c'est un peu plus complexe là, que de se faire livrer une pizza, malheureusement, on aimerait bien, mais on tente de travailler avec les instances, on essaie très, très fort pour trouver une solution rapide et qui pourra peut-être, on verra un jour, devenir plus permanente. C'est sûr que parce qu'un patient immunodéficient qui va dans un hôpital en partant, c'est pas une bonne idée parce que qu'il soit sous traitement ou non, il est plus à risque d'attraper certaines maladies. Okay. On tente de lui redonner la qualité de vie la plus normale possible, mais c'est sûr que il y a encore quand même certains dangers.
Bon, et c'est non, mais tu sais, on parle beaucoup de la fameuse marche que nous prodigue oui. M. Legault régulièrement, puis c'est oui. vrai que ben, ça fait du bien, on s'oxygène, on bouge un petit peu le corps, le cœur, de s'isoler. Moi, je sais que ma mère, qui n'est pas là, immunodéficiente, mais qui a plus de 70 ans et qui ne peut même pas sortir de son logement et marcher dans le corridor, est-ce que la marche est positive ou négative selon vous ces temps-ci pour eux?
Ben, écoutez, c'est sûr, moi je pense que ça dépend du contexte. Okay. Okay? C'est clair que dans un appartement où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, ou tu sais, dans un bloc appartement où est-ce qu'on irait sortir résidence. Dans le corridor, c'est clairement pas la bonne idée. Okay. C'est clairement pas une bonne idée. Par contre, quelqu'un qui a un endroit où aller marcher, où est-ce qu'il ne rencontre pas de personnes ou très très peu et qui peut s'éloigner pour respecter le 2 mètres, je pense que ça peut être quelque chose qui peut même être bénéfique pour la personne. Parce que c'est clair que l'isolement a des effets aussi psychosociaux et que on se le cachera pas, la santé est reliée aussi à notre état psychologique aussi. Donc c'est sûr qu'une bonne marche, ça peut faire du bien. C'est clair que dans les CHSLD, tout ça, où est-ce que vraiment gens sont très, très rapprochés. Là, c'est autre chose. Et où est-ce qu'il peut avoir de la contamination pour avoir touché à un bouton d'ascenseur, assis à ça? C'est sûr que là, il peut avoir. Il y a quand même un risque, d'après moi, plus élevé. Mais quelqu'un qui reste chez lui et qui va prendre une marche dans un lieu sûr, là, par contre, c'est tout indiqué.
Je me trompe ou... bon, c'est gratuit ce que je dis, là, mais on peut présumer que ce sont quand même des gens qui ont appris à prendre soin d'eux et qui vont peut-être un peu mieux tolérer les restrictions que les fameux 70 ans qui se disent que personne qui va me dire quoi faire et comment vivre.
C'est drôle parce que moi, nous avons un groupe Facebook de patients, d'accord? Et puis moi, je l'anime et puis bon, je jase avec les patients. Et puis, il y en a beaucoup qui ont dit, les gens vont finalement comprendre qu'est-ce qu'on vit à l'année. Hein? Donc, c'est sûr que les patients sont beaucoup plus... sont beaucoup plus rigoureux que sur les consignes d'hygiène qu'on nous demande. Ce sont des consignes que déjà elles respectent, le fait de se laver les mains toujours, fait d'éviter de se toucher le visage et tout ça. Donc ce sont déjà des recommandations.
C'est acquis, là. C'est
intéressant, c'est des choses qui sont acquises dans le quotidien. Ouais. Donc c'est clair que c'est moins difficile pour c'est pas moins difficile parce que c'est sûr que quand il y a des enfants ou tout ça, là, on s'entend, c'est quand même, c'est pas une période facile pour personne. Mais c'est quand même pour ce qui est de toutes les règles d'hygiène, c'est déjà des choses qui sont acquises chez les patients immunodéficients. Ils connaissent comment se protéger, se laver les mains, se laver les mains chez nous.
J'entends en terminant parce que bon, il me reste 40 secondes, mais le plus gros problème, donc, c'est la livraison de certains médicaments. Est-ce que il y a une écoute actuellement? Est-ce qu'on planche sur le problème? Il me reste 20 secondes, Geneviève.
Exactement. On planche sur le problème et on planche aussi sur le problème des patients qui sont en intraveineux et qui doivent aller à l'hôpital pour avoir leur traitement. Donc, c'est un double, c'est deux dossiers qu'on suit assidûment présentement.
OK. Ben, on va peut-être se contacter à nouveau parce que, comme je le disais, Antoine, c'est probablement pas pour demain la solution. Elle est coordonnatrice de l'Association des patients immunodéficients du Québec, Geneviève Selon. Merci beaucoup. On fait la pause. Christiane s'en vient.